Hey, je suis tellement heureux de vous revoir. J'espère que c'est partagé. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux de vous revoir. Et on va lire ensemble 2 Samuel 11, verset 2 et rien que le verset 2. La Bible est tellement riche des fois que quand tu essayes de lire tout un chapitre, c'est pas possible que tu puisses tout comprendre en une seule fois. On est très ambitieux. Les perles de la Bible sont dans chaque verset. On lit ensemble ce matin ? Voici ce qui est écrit, deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 2. « Un soir, David se leva de son lit et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait et cette femme était très belle. Un soir, David se leva de son lit, il alla se promener sur la terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. Le thème du message, c'est insomnie. Insomnie. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir une vie tellement active pendant la journée, vous courez, vous vous levez, vous essayez de gérer la famille, vous arrivez à prendre votre bus, votre voiture, vous arrivez en retard au boulot, vous excusez, vous courez, vous courez, vous courez, arrive le soir, vous êtes épuisé. Vous essayez de vous calmer, vous essayez de vous décontracter, mais la nuit, vous refaites le match. Et la nuit, vous revivez le jour. Si bien que le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous êtes déjà épuisé. Mais du coup, vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous vouliez faire dans la journée. Du coup, vous arrivez le soir et vous dites « Ah, oh, purée, ça, j'ai oublié !» Et vous refaites le match. Et ça va comme ça de jour en jour. Et l'insomnie vous guette. Et l'insomnie vous guette. Le jour, tu t'actives moins que tu devrais, parce que tu es fatigué. Et la nuit, tu t'actives trop. Insomnie. On va voir 3 choses aujourd'hui par rapport à David. Vous avez tellement entendu de messages sur David et Bathsheba, et celui-là ne ressemblera, j'espère, pas à ceux que vous avez entendus, parce que je vais juste m'arrêter sur cette partie-là, la partie insomnie. Il y a déjà tellement de choses que Dieu veut nous dire là-dessus que je veux vraiment rester focalisé sur la pensée de Dieu pour nous ce matin. 3 points, on va développer ensemble. La notion de repos difficile dans ta vie. Ensuite, on va voir lorsque ce repos difficile te fait glisser vers la mélancolie. Et troisièmement, la tentation de l'échappatoire. Ça vous est déjà arrivé de rentrer fatigué d'une journée éreintante, épuisante? Vous avez juste envie de vous vider de la tête, de penser à rien, de réfléchir à rien. Et là, grâce à la télé, Internet, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., vous avez largement de quoi vous vider la tête. Et on va voir ce que ça peut provoquer. Alors on part, repos difficile, premier point, le repos difficile. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabba, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. Alors, je vais déjà enlever peut-être les choses vraies et puis les clichés que j'ai moi-même prêché en prédication. J'ai entendu beaucoup de messages et je suis un de ces personnes fautives qui commençaient en disant « Pourquoi il n'était pas à la guerre ? Qu'est-ce qu'il fait à glandouiller sur sa terrasse ? Les autres sont au travail, ils devraient bosser. C'est un chef, c'est un leader, il n'a qu'à prendre sa part de responsabilité. » Et donc, j'ai prêché en son temps, quand j'étais un peu plus jeune, en disant « Voilà ce qui se passe lorsque tu prends du repos et que tu veux glandouiller, eh ben, tu es en danger. » C'est vrai, mais ce n'est pas assez riche et ce n'est pas assez profond pour expliquer ce qui se passe dans ce texte. Je voudrais vous parler de son appel, comment tout ça a commencé. Faites un petit flashback pour ne pas juger David de façon trop rapide. Il a été oint par la corne d'huile du prophète Samuel. Alors on va voir son appel, une harpe et une épée. Voici quel était l'appel de David, c'était une harpe et une épée. Vous avez tous un appel particulier que Dieu a mis sur votre vie. C'est quoi un appel particulier ? Ce n'est pas forcément de partir en mission en Inde. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus contact avec Dieu. L'appel de David, c'était de jouer de la lyre, de jouer de la harpe. La moitié de la vie de David dans ce que Dieu attendait de lui, c'était tout simplement savoir faire do, si, sol, la, mi, et que cela lui inspire d'écrire 40 psaumes extraordinaires qui me font du bien aujourd'hui. Et parce que cet homme était né pour le louer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Ça, c'était la moitié de la vie de David. Et l'autre moitié, parce qu'il y avait aussi un autre aspect dans sa vie, c'était de prendre cette responsabilité de chef de guerre et de délivrer Israël de toutes les incursions, les invasions qui existaient sans cesse. Parce que des fois, ce n'est pas le tout de se mettre dans un monastère et de passer tout son temps à louer Dieu. Dieu veut aussi que tu prennes des responsabilités par rapport au tien, par rapport à ta famille. Il faudra que tu te lèves, il faut que tu ailles au combat, il faut que tu assumes des fois le fait de gagner ta vie à la sueur de ton front. Tu te bats et tu as des combats. Et l'autre aspect de la vie de David, c'était des combats. Vous vous rappelez ces combats? Vous êtes là avec moi ce matin là? 1 Samuel 16, verset 17. Vous savez, l'onction de Dieu est sur lui depuis le chapitre 16. Saül répondit, « D'accord, cherchez-moi un bon musicien et amenez-le-moi. » C'est comme ça que commence l'appel de David. Et l'un des serviteurs donc, de Saül dit alors, « J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre et c'est aussi un brave guerrier. » Il a été pris pour ses deux fonctions. Tu es né pour deux fonctions. Tu es né pour faire de la musique et apprendre à louer Dieu. Et tu es né pour David, tu es né aussi pour combattre. Et tu vas devoir prendre des risques. Et c'est ton courage qui est déterminant là-dedans. D'un côté, c'est ta sensibilité. Et de l'autre côté, c'est ton courage. Combat, que de stress. Je sais, et Dieu sait aussi, quand tu rentres éreinté de ta journée de travail, et que tu dis, Seigneur, j'en peux plus de me battre dans tous les domaines. Je dois me battre pour mes finances. Je dois me battre pour la paix dans ma famille. Je dois me battre pour éduquer cette fille-là qui part en catastrophe-là. Je dois être capable de trouver les mots pour que ce garçon puisse m'écouter et garder mon calme quand mon mari est insupportable ou quand ma femme me crie dessus. Je dois me combattre pour pouvoir avoir une bonne attitude au travail. Et tu te fatigues. David vient de vivre 25 ans de combat. Alors, permettez-moi de vous dire, avant que vous le jugiez en disant « Qu'est-ce que tu faisais là sur ta terrasse ?» Permettez-moi de vous dire qui parmi vous, lorsqu'il avait entre 15 et 20 ans, regardez l'image, était capable d'attaquer un lion à main nue. Qui, lorsqu'il avait moins de 20 ans, alors qu'il était en train de calmer un roi complètement psycho et possédé en plus, qui s'appelle Saül, David devait rester en train de louer le Seigneur avec sa petite harpe pendant que le vieux fou lui balançait des javelots. Vous avez vécu ça? Moi non plus. Est-ce que vous avez vécu ce qui se passe lorsque, face à un géant, vous êtes tout petit avec votre maître, je ne sais pas combien, et que le gars en face, il est à 3 mètres, et qu'il a une épée qui peut vous découper en deux en un seul coup, alors que vous avez un petit caillou? Qui a le courage de David? Qui a le courage de fuir ton beau-père qui te détruit ta vie, qui t'arrache ton mariage et qui te fait fuir de grotte en grotte pendant des années, si bien que jusqu'à ses 30 ans, l'appel de Dieu, il n'y a rien du tout. Il y a des caves pendant 30 ans. Et lorsqu'à 30 ans, il arrive roi de Juda, il a encore la capitale à prendre, Jérusalem. Et quand il prend la capitale, vas-y, division dans le royaume, c'est reparti. Il y a le royaume du Nord, il y a le royaume de Juda. 7 ans de combat en plus. Et une fois qu'il a fait 7 ans de combat pour réunir Israël, là vous pourrez dire, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, je me repose. Eh ben non, il y a les Ammonites qui font des incursions et il repart attaquer Rabat. Donc permettez-moi de dire qu'à 42 ans, tu as le droit d'être fatigué. Et tous ceux qui ont plus de 42 ans, vous dites. Et c'est de moins de 42 ans aussi. Hein. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour être fatigué. Quand vous avez trop d'émotions, même jeune, vous vieillissez très vite. Et David est parmi ces personnes qui avaient beaucoup de dons et beaucoup d'épreuves et qui a vieilli très vite. Dans les moments où il n'allait pas bien, David a écrit 40 psaumes. Et dans les moments où il allait bien, David en a écrit aussi. C'était celui qui a découvert, écoutez la harpe de David, qui dans des moments est capable de dire « Dieu, tu es mon rocher. Dieu, tu es ma forteresse. Je t'aime éternel, mon libérateur, mon abri, mon bouclier. Il a une révélation que Dieu est une force, que Dieu est un rempart, que Dieu est un refuge, que Dieu est une lumière, que Dieu sauve, que Dieu écoute, que Dieu délivre, que Dieu récompense, que Dieu voit, que Dieu conduit, que Dieu protège, que Dieu rend vainqueur, que Dieu est puissant, que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu est pur, que Dieu est parfait, que Dieu est vivant et digne de louange. C'est pas trop mal quand même pour quelqu'un qui n'avait pas la Bible. Alors oui, ce soir-là, il fait une insomnie parce qu'il est cuit, il est fatigué, il a beaucoup donné. Et à ce moment-là, pourtant, ce n'était pas la journée la plus épuisante de sa vie. Hein. C'était une journée où apparemment, il n'a rien fait de particulier. Mais vous savez, après une phase de surmenage, quand vous essayez de prendre des vacances, enfin, je parle pour moi, ça ne marche pas des fois. C'est en vacances que je suis le plus... Et sans café, hein, sans café, je vous promets, sans café. C'est comme si je me suis habitué à un tel rythme que déconnecter derrière, c'est très difficile. Et je suis même pas sûr, et enfin je termine sur David et peut-être la critique de David. Certains pasteurs ont dit oui, il aurait dû être parti au combat, son boulot c'est de combattre, etc. Peut-être que c'est son armée qui lui a demandé de ne pas prendre ce risque. Parce qu'ils lui ont dit, David, t'en as fait plus que nécessaire. À chaque fois, David est allé diriger son armée en allant devant. Il prenait les risques à chaque fois. Me dites pas qu'il manque de courage, sinon allez jouer contre Goliath. Il a toujours assumé ses responsabilités. Et là, c'est même peut-être les siens qui lui ont dit, écoute David, la capitale, là, c'est notre dernier match. On gagne 3-0 à la mi-temps, va te reposer. Il n'y a plus d'enjeu. On va passer le tour. Vas-y, va te reposer. On termine la capitale. Toi, souffle un peu. Sauf qu'il est parti sur le banc de touche un chouïa trop tôt. Parce qu'à ce moment-là, son corps s'arrête, mais pas son cerveau. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin, et tu sais que ce que Dieu est en train de te dire, c'est que Dieu dit, j'ai vu ton corps qui a beaucoup travaillé, maintenant tu essayes d'arrêter ton corps, mais ton cerveau n'arrive pas à trouver de repos. Alors ce qui risque de se passer, c'est que tu peux glisser vers la mélancolie. Je vais vous dire ce que c'est que la mélancolie. Deuxième partie, la mélancolie. La mélancolie, c'est un trouble de l'humeur caractérisé par un état un peu déprimé, un sentiment de grande fatigue et parfois une perte de goût de vivre. Excusez-moi, mais quand vous avez tué des lions, vaincu Goliath, calmé Saül, pris Jérusalem et conquis tout le royaume, il y a quoi de plus ? À 42 ans, il a accompli tout ce qu'on pouvait rêver. Je sais ce qu'il se dit. Hein. Mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire jusqu'à 90 ans maintenant ? Il est fatigué et il a une perte de goût. Il ne fait pas sa dernière bataille et il monte sur la terrasse. Il a le droit de monter sur la terrasse. Sauf que quand il monte sur la terrasse, vous connaissez ce qui va se passer. Vous savez l'engrenage qu'il va y avoir derrière. Pour ceux qui ne connaissent pas trop bien leur Bible, je vais juste vous le faire rapidement. D'abord, il va avoir un flash parce qu'il y a une publicité d'une femme nue devant lui. C'est juste une pub. Cette femme-là, elle est loin, il ne se passe rien, c'est juste un regard, ça arrive. Sauf que après. Le verset nous dit, il va voir qu'elle est très belle. C'est-à-dire que son regard va devenir insistant. Ce n'est pas juste hop au passant, c'est qu'il va focaliser dessus. Ensuite, regardez le piège du diable. Ensuite, de regard insistant, il va se dire, mais c'est qui cette femme ? Je voudrais lui donner un nom. Et c'est là où il va se renseigner, on va lui dire c'est Bathsheba, la femme de Uri, le Hittite, etc. Donc là, maintenant, il commence à donner un nom. Ça passe d'une idée fugace et passagère et ça devient de plus en plus concret. Après, il lui dit, viens, je veux te rencontrer. Eh, attendez, n'imaginez pas n'importe quoi, c'est pour un café. Ça commence toujours par un café. Au début, il se dit, je veux juste, elle est belle, c'est bon. Non, vous ne comprenez pas parce que vous êtes persuadé. Et je sais qu'il y a des hommes célibataires dans la salle, mais ce n'est pas une histoire de sexe. Au début, ce n'est pas une histoire de sexe. Je sais qu'il y a des personnes, notamment hommes ou femmes, quand vous êtes célibataire, c'est un aspect de votre vie qui manque et Dieu le sait. Et que quand il y a un manque, c'est difficile et c'est un combat et c'est normal. Mais là, ce n'est pas le cas de David. Parce qu'on est sur le cas d'un roi polygame. Donc s'il a envie de coucher, il peut coucher. Largement possible. Parce qu'il y a des femmes qui sont payées pour ça dans son harem. Donc lorsqu'il monte sur la terrasse, c'est justement parce qu'il ne veut pas coucher. Pendant des années, j'ai cru qu'il était en manque. Mais non, c'est idiot. Il n'est pas en manque. Il est juste blasé. Et le danger de David, ce n'est pas d'être en manque ce jour-là. C'est de se dire, je me promène, ça me prend la tête, j'ai plein de soucis, j'ai envie de rien. Parce que je pense que c'est ça. C'est le danger du moment où ta vie, tu as fait tellement que tu es en train de perdre le goût aux choses. Et tu as un vide émotionnel. Et du coup, il peut y avoir des idées noires. Pour certains, vous êtes vraiment victime de désenchantement. Après avoir notamment beaucoup donné, beaucoup travaillé pour les autres ou pour Dieu, vous pouvez vivre une période de désenchantement. C'est ce que j'appelle le dimanche soir. Qui c'est qui a déjà servi Dieu dans une église, quel que soit le service, de la librairie, les enfants, les ados, etc. Qui c'est qui a déjà servi Dieu? Tous ceux-là, vous tous qui avez servi Dieu et qui avez donné une journée, où vous avez donné, donné, redonné, donné, donné, redonné. Le soir, vous arrivez. Et vous dites, Dieu, je t'ai prouvé mon amour aujourd'hui. On est quitte. Tu me dois rien, je te dois plus rien. Ce soir, c'est moi et moi-même. Et c'est quelque chose de très naturel de dire, j'ai fait le job. Moi, j'ai ça en tant que pasteur. Ah, je déteste le dimanche soir. Parce que le dimanche soir, après, c'est pareil, quand vous sortez d'une conférence avec Joyce Meyer, quand vous sortez d'un temps, d'un week-end d'ado, tout ça, on vit tous pareil. Après un sommet spirituel, il y a le désenchantement après. Et on vit le désenchantement et puis on tourne. Puis on ne trouve pas le sommeil, on tourne. C'était tellement fort en émotion, on tourne. En plus, si vous êtes nerveux comme moi un peu, là vous tournez beaucoup. J'espère que vous êtes moins nerveux. Et le piège de l'âme, il est dans l'oisiveté. Troisième point, l'échappatoire. L'échappatoire. La nature a horreur du vide. Et c'est une loi automatique. Si vous dites, ce soir, je décide que je fais rien, c'est impossible. Tu vas simplement allumer un écran et tu vas dire « Ah, je vais me vider l'esprit. » Mais en fait, tu vas le remplir. Et la question, c'est quoi? C'est si jamais je ne trouve pas de repos, je suis tenté de m'échapper dans quelque chose de dangereux. Vous voyez, le diable, lui, David, à ce moment-là, il a dit, « Ok, Seigneur, j'ai écrit assez de psaumes. » Ça vous est déjà arrivé, ça? Ça vous est jamais arrivé? Non. Je vais faire en français courant pour vous. « Seigneur, j'ai chanté ce cantique-là suffisamment. »« Ouvre les yeux de mon cœur, Père. » Verset 42. « Ouvre les yeux de mon cœur. » 72. « Ouvre les yeux de mon cœur, Père. » Verset 119. Ouvre leurs yeux, parce que moi, j'ai déjà ouvert le mien depuis longtemps. Il y a un moment où ça ne te parle plus, parce que tu es blasé. Tu es blasé. Et même le message, dès que ce matin, tu as vu que j'étais livre de Samuel et le roi David. Allez, encore David et Bathsheba, numéro un tel. Vous êtes exactement dans le même état que David, si vous pensez ça. C'est-à-dire, le jour où vous pensez, vous connaissez Dieu, et que vous avez écrit suffisamment de psaumes, et que votre voix a assez chanté, et que vous avez entendu assez de prédications. Mes amis, je voudrais juste vous mettre un warning énorme. Danger. Vous êtes en train de considérer que la bénédiction de Dieu, c'est blasant. C'est fatigant. Vous savez ce qui va se passer? Le seul reproche que David va avoir de la part de Nathan, c'est quoi? Il va lui dire, « Ouais, tu sais que c'est pas bien !» Non, même pas. Nathan va lui dire, « Il y avait un homme qui avait plein de brebis. Et il est allé prendre la seule que Dieu ne lui avait pas donnée. Et ça, c'est inadmissible. Parce qu'avec tous les bienfaits que Dieu t'a donnés, que tu dises, Dieu est insuffisant pour mon bonheur. T'as donné une occasion aux ennemis de l'Éternel de se moquer de Dieu. Et voilà le danger du désenchantement. C'est qu'en tant que chrétien, lorsque je me laisse aller à la mélancolie et que je me laisse aller à ce côté noir en disant « Oh, cet enfant, il me fait des soucis. Ah, oh, ce métier, franchement, pour ce que je gagne, je mériterais plus. Cette église, le pasteur, franchement, s'il changeait, c'était mieux. Mon mari, s'il changeait aussi, pourquoi pas. Ma femme, oh là là, Seigneur, je ne sais toujours pas pourquoi. » Et tu dis tout ça. Et si tu te laisses aller, c'est des idées qui s'amplifient. Le diable, c'est la machine à essorage de l'enfer. Tu commences à tourner petit et tu passes en 1200 tours. Au début, David voit Bathsheba. Il ne sait pas qui elle est. Il voit juste une femme. Des femmes nues, il en a vu plein. Il en a vu plein. Sauf que celle-là, il ne l'avait pas vue. Après, il lui dit, c'est qui ? Et tu vois, le danger, c'est que si tu mets la main à l'engrenage, tu peux aller très loin. Je vais vous donner, est-ce que c'est possible de montrer toutes les possibilités, Facebook, tout ça ? Mettez-moi ça. Au début, tu vas sur YouTube pour regarder une vidéo chrétienne. Puis après, tu vois le lien sur le côté. Et le lien du lien. Et tu avais prévu de regarder 5 minutes le clip du pasteur ou de tel chant. Mais à la fin, tu as passé 2 heures sur Facebook. Tu as passé 2 heures sur Snapchat. Et tu es allé de photo en photo jusqu'au jour où... Oh tiens, purée, c'est mon ex. Oh ! Est-ce que ton ex te manquait avant que tu y ailles ? Non ! Non ! D'ailleurs, quand ça s'est fini, tu étais bien content. Mais quand tu vois sa photo, ça réveille des désirs qui étaient morts et qui tout d'un coup se repointent. Lorsque tu passes des heures à faire ça, si tu regardes certains films, même si tu ne déprimes pas sur ton célibat, à la fin du film, tu vas vraiment déprimer. C'est le principe de la pub, c'est de vous créer des envies que vous n'avez pas. Et c'est le principe du diable, ça a toujours été ça. Adam et Ève, hey, y a un fruit, c'est fun, vous ne le connaissez pas. Est-ce qu'ils avaient un manque de fruits ? Ils étaient gavés de fruits. Ils en avaient marre des fruits. Ils avaient tellement fait tous les fruits qu'ils finissaient par dire, Seigneur, c'est encore des fruits. Et le diable, il dit, mais hey, celui-là, tu ne connais pas. Et le diable va nous faire une pub en nous disant, tu as peu de conséquences derrière. Je ne vais pas développer parce que c'est un peu, c'est assez intime, mais quand il a pris connaissance avec Bathsheba avant de coucher, il savait qu'il ne pouvait pas avoir de bébé avec elle. Parce qu'il n'est pas né de la première pluie. Hein. Même la médecine n'était quand même pas très avancée, mais ils avaient bien compris la notion de cycle des femmes. Et si elle venait juste de se purifier de ses règles, il se dit, c'est bon, je risque rien. Hein. On est à J, là, J plus 1, c'est bon. Bing, erreur. T'as un enfant. Oh, mince. Etc. Tac, 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 tac. Et le diable te fait venir, mais comme un moulinet de pêche, là. Il te fait repartir, il te fait revenir. Parce que je suis sûr, vous, je ne sais pas comment vous raconter cette histoire, mais au début, il est là et il se dit, il s'appelle comment ? Bathsheba. Tu peux lui demander de venir juste pour un café ? Non, viens pas. Non. Parce qu'il y a des moments de lucidité quand même. Quand tu es en train de pêcher, tu as des moments de lucidité où le Saint-Esprit dit, attends, fais pas ça, éteins ce truc. Ouais, mais Seigneur, c'est bon, je contrôle, je rallume. Si c'est bon, fais l'avenir. Ah, c'est pas. Alors, on peut plus annuler, Tu l'installes dans le salon orange, là. Salon orange, ouais, le grand salon, ouais. Non, c'est un peu froid, plus intime. Le salon bleu, là. Ouais. Le canapé, là. Ouais. Ça, tu dérapes, clac, 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 clac. Et à la base, c'était tout simplement parce qu'il disait « j'ai envie de me vider la tête ». C'est comme ça que commence la porno, c'est comme ça que commence le flirt, c'est comme ça que commence un tout début d'adultère dans ta vie, c'est comme ça que commence une mauvaise fréquentation avec quelqu'un que tu ne devrais pas fréquenter, c'est comme ça que commence, etc. Je ne vais pas te faire toute la liste parce que mon but n'est pas de t'accabler aujourd'hui, mais de te prévenir. Ça réveille des démons qui dorment. Alors je vais vous parler du vrai repos. J'ai peur que vous concluiez mal sur ma prédication. Et j'ai peur moi-même de mal conclure ma prédication. Parce que pendant des années, je terminais en disant à toi, enfant de Dieu, « Reprends les armes !» Et tu me dis, mais t'es brave toi, mais je suis cuit. Si tu ne prends pas les armes, loue Dieu ! Ouais, mais là, j'en peux plus du CD de Maggie Blanchard, là, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais alors ? Je voudrais te dire que Jésus nous propose un autre échappatoire qui n'est pas dans le faire. Je suis né dans une église « il faut ». Vous ne connaissez pas ces églises-là. Mais moi, je suis né dans les églises « il faut ». Tu veux être béni par Dieu ? Il faut prier. Tu veux voir la gloire de Dieu ? Il faut louer. Il faut louer plus. Il faut prier plus. Tu lis ta Bible, c'est bien. Il faut la lire plus. C'est des « il faut ». Il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu pries à voix haute le dimanche. Il faut que... Et quand tu es cuit et que tu as fait le job, c'est pas trop grave quand tu fais pas beaucoup parce que ça, c'est bien aussi de se remotiver. Mais je parle de tous ces gars et de toutes ces filles qui donnent beaucoup pour Dieu. Et là, je parle vraiment à ceux qui ont une position de leadership. Il y a un moment où tu dis « j'en veux plus !» Là, Dieu, j'ai fait le job ce dimanche, je suis juste tranquille et je fais pas de... Et là, Jésus me parle et il me dit « mais regarde cette image. C'est ceux qui dorment. Il dort devant son écran. Il lit sa Bible. Il dort. Lequel est le plus spirituel ? Celui qui lit sa Bible. Celui. Alors, je voudrais, puisqu'on sait très bien que le plus spirituel, c'est celui qui lit sa Bible, je voudrais vous parler de ce bébé, de ce profiteur. Ce bébé-là que vous voyez est un imposteur parce que son père lui a donné le biberon. Ou sa mère. Son père ou sa mère lui a changé la couche. Et il n'a pas fait de cadeau en plus avec ça. Et après qu'on lui ait donné et donné, ce gars-là, il dit, je prends, vous avez fini de prendre soin de moi. Trouvez-moi un bon hamac, ça me va très bien. Et on a du mal à accepter que Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et tous les super spirituels condamnent ce bébé en disant, ça, spirituellement, là, c'est une feignasse. Cet enfant-là devrait commencer à dire, je te loue, mon papa, de m'avoir changé ma couche. Je vais lire les paroles de maman, la lettre que maman m'a écrite à la naissance, et je vais proclamer toutes les paroles que maman a dites sur ma vie à la naissance. Ben non, ce bébé, il a le droit de dormir. Et le repos, même si j'ai des emails après des plus spirituels de cette salle, c'est bénéfique et c'est divin. Et quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », il n'a pas dit « Je vais vous organiser une réunion de prière qui va durer jusqu'à minuit ». Il a dit « Je vais vous donner du repos ». Encore faudrait-il ne pas culpabiliser quand tu t'installes dans ton canapé et à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu me proposes ce soir ?» Eh bien, je te propose un temps de relaxation, tranquille avec Dieu. Il faut que je parle en langue, Seigneur. Moi, si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Il faut que je lise ma Bible, Seigneur. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Tu sais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Parce que le Saint-Esprit intercède tout le temps à l'intérieur de nous. Moi, je suis né dans une église, il faut, tellement que ça m'a marqué. Des fois, je me réveille la nuit en sursaut à 3h du matin en me disant « J'ai pas assez prié !» Et Dieu me dit « Mais arrête, t'as un problème. Je te demande pas de prier, je te demande de dormir. » Parce que Jésus aussi s'est reposé. Et si vous connaissez jamais le repos de Dieu, il y a un jour où vous allez le chercher ailleurs. Et pour ne pas avoir appris à vous décharger sur Dieu de tous vos soucis, vous ferez un vide dans votre tête. Et ça commencera sur Facebook et ça terminera dans des pleurs. D'accord, il n'y a pas beaucoup de amen, mais celui, hébreu, je termine avec ça, celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Non, j'ai pas entendu là. Comme Dieu s'est... Moi, mes pasteurs avaient réussi à me faire croire que le Shabbat, fallait culpabiliser quand on ne le respectait pas. Mais non ! À la base, Dieu a inventé le repos pour dire « Je sais que vous allez faire sauter vos jours de repos !» C'est vrai ? Qui c'est qui a pris son jour de repos cette semaine ? Même pas. Et Dieu dit « Équilibrez votre vie, passez du repos avec moi. Ça vous tentera moins de faire n'importe quoi le soir. » Amen ! Je dis à moi-même. Non, mais je sais, vous n'êtes pas là, mais... En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. En fait, Dieu est le champion de la relaxation spirituelle. Mon Dieu veille sur moi, il pourvoira à tous mes besoins. Il ne sommeille ni ne dort, donc moi je peux dormir parce que lui ne dort pas. Et il prend soin de moi. Et c'est biblique. Et c'est archi totalement biblique. Et si vous voulez faire plus que ce que Dieu vous a demandé, vous ferez des combats extraordinaires, vous écarterez la gueule des lions, vous arriverez à éviter des javelots, vous serez capable de composer des hymnes super. Et à un moment dans votre vie où vous serez plus faible, vous allez vous fracasser spirituellement et vous allez dire « Dieu, tu m'as pas tenu, mon mariage a explosé, mes enfants sont partis en vrille, t'étais où ?» Et Dieu dit « Mais j'étais à côté de toi et j'étais pas réussi de te calmer là pendant toutes ces années. » À te dire, mais viens t'allonger sur le canapé et prie, loue Dieu, ou bien juste reste dans ma présence. Dis rien. Moi, je vous donne cet exercice, je vous quitte là-dessus. Je vous donne cet exercice cette semaine. Passez 10 minutes, essayez dès ce soir, 10 minutes à ne rien faire. Quand je dis ne rien faire, c'est rien du tout. C'est-à-dire, vous êtes là, vous vous installez, vous mettez une chaise en face de vous, cette chaise, vous dites... C'est comme si Dieu était là, parce que Dieu, il est là. En fait, il est à l'intérieur de vous. Mais psychologiquement, ça vous aide. Vous mettez une chaise en face, vous installez et vous dites, Seigneur, je suis juste avec toi, dans ta proximité, dans ta présence, je suis bien là. Et relâche la pression. Et commence à dire, Seigneur, tu es mon repos. Dieu n'est pas une activité. Dieu n'est pas une activité. Pendant des années, j'ai considéré que Dieu était une activité. Et c'est pour ça que le soir, quand j'avais beaucoup donné, je me disais, Seigneur, je vais changer d'activité. Donc, je ne passais pas de temps avec toi. En fait, Dieu n'est pas une activité, Dieu est une permanence. Mais c'est une source qui te renouvelle en permanence. Va te rafraîchir à la source. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que j'ai en accès à Christ un repos que je ne connais pas. Commence, alors que les musiciens viennent sur le devant, mais on va juste rien faire. Tu es à ta place et tu dis, Seigneur, je voudrais que te dire je suis bien avec toi. Ça n'a pas été des années faciles, Seigneur, mais je suis bien avec toi aujourd'hui. On a vécu des moments forts et tu as été là dans mes combats, mais merci parce que tu es aussi là quand je me repose. Tu n'es pas le Dieu qui me valorise que quand je suis en train d'agir. Tu es le Dieu qui me valorise aussi quand je fais rien. Parce que je suis comme un enfant dans le hamac spirituel. Et je sais que mon Père Céleste m'aime même quand je fais rien. Alléluia. Laisse un accès à Dieu ce matin, juste pour t'apaiser. Juste pour t'apaiser. Tu sais, quand tu es sur une terrasse, soit tu regardes le ciel, soit tu regardes la terre. Et quand il était sur la terrasse, au lieu de regarder le ciel, il a regardé la terre, le pauvre David.
Toi que je me...
On peut se lever ensemble? Allez, on va louer Dieu.
Je veux marcher dans tes voies.
J'élève mes mains, Jésus.
J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Seigneur, oh Seigneur.